tient pour répondre à vos salutations. Donc on va prier et après ça on va expliquer comment on procède ce soir. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, un temps Seigneur pour te louer, un temps pour t'adorer, un temps Seigneur aussi pour plonger nos regards dans ta parole. Et ce mois-ci, on met toute cette emphase particulière sur l'étude de ta parole, sur ce qu'elle est supposée représenter pour chacun d'entre nous, pour ce qu'elle apporte à nos vies, pour ce qu'elle transforme, et surtout, Seigneur, pour l'outil merveilleux que tu as placé entre nos mains, non seulement pour notre formation, non seulement pour notre croissance personnelle, mais aussi, Seigneur, pour l'utilité que nous devons en faire pour l'avancement de ton royaume. Donc, on te demande, Seigneur, tout simplement de bénir ces quelques instants, de bénir ce moment que nous prenons en ta présence. Répands ta grâce sur nous qui sommes réunis ici à l'église avec l'équipe technique. Et puis, bénis aussi, Seigneur, toutes les personnes qui seront branchées ce soir depuis la maison. Que ta grâce, Seigneur, les accompagne, que ta main toute puissante, Seigneur, les soutienne et que tu nous bénisses tous et chacun durant les prochains instants que nous prenons dans ta présence. Nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Donc, simplement encore une fois, vous saluer, vous dire qu'on est content d'être parmi vous. La caméra va devoir être ajustée parce que on rate la gauche. Daphné me dit qu'elle ne veut pas qu'on la voie, mais on va la voir malgré tout. Oui, on ne voit pas beaucoup mon épouse, ce qui ne la chagrine pas, mais voilà. Quand les gens vont vous entendre chanter, ils vont quand même comprendre que ce n'est pas moi qui chante. Donc, comment on procède ce soir? Donc, on va prendre juste un petit instant avec Daphné pour louer le Seigneur, comme on avait l'habitude de le faire jadis avant la pandémie. Par la suite, on prendra donc un temps d'étude biblique, environ une demi-heure maximum, puis on veut terminer avec un temps de prière qui sera lié à la question ou aux questions qu'on abordera ce soir. Donc, c'est un peu le programme pour nous pour ce soir, que le Seigneur nous conduise, et s'il avait quelque chose à changer dans le programme, bien entendu, on se soumettra à ce que Dieu fera parmi nous. Allez. Il faudra que j'allume ça. On recommence. OK.
Mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. C'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Omega, où c'est Yahweh. Eres Yahweh, eres Yahweh. Eres Yahweh, eres Yahweh. Eres Yahweh, Alpha y Omega. eres Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha.
Alors encore une fois, bienvenue à notre soirée d'études bibliques. Comme la semaine dernière, je vous rappelle que je ne suis pas le pasteur Sergio. Il est en pause pour quelques semaines après avoir complété la série qu'il enseignait. Et ce mois-ci, j'ai senti d'aborder la question de la parole de Dieu. Savoir quelle est l'attitude que nous offrons à la parole de Dieu, quelle est notre réaction, quelle est notre réponse à la parole de Dieu. Et le dimanche matin, ce que nous faisons, c'est qu'on étudie donc la parabole du semeur, qui, si on voulait être très scripturaire, on devrait pratiquement l'appeler ou l'intituler la parabole des terrains, puisqu'on parle davantage des terrains qui reçoivent la semence plutôt que du semeur qui sème. Donc, comme on a l'habitude de l'appeler la parabole du semeur, donc on va garder ce titre-là. Donc, le dimanche, on étudie cette parabole, qu'on reprend le mercredi en essayant d'approfondir un peu les notions du dimanche et puis aussi d'apporter peut-être quelques éléments qui n'ont pas été abordés durant l'assemblée ou durant la prédication du dimanche. Alors, puisque vous êtes à la maison, qu'on est dans une étude biblique, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu au chapitre 13, on va lire cette parabole qu'on retrouve dans trois évangiles, dans Marc, dans Matthieu et bien sûr dans Luc, donc ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Je ne les ai pas donnés dans l'ordre, je le sais. Mais on les trouve donc dans ces trois évangiles synoptiques. Et puis, chacun des évangiles va rajouter parfois un détail, parfois un mot, tout simplement pour une meilleure compréhension. Donc, ce soir, oui, on va lire dans un seul texte. Par contre, lorsqu'on va passer à l'explication, on va bien entendu faire référence aux trois textes qui nous mentionnent cette parabole. Mais tout simplement parce que c'est une étude biblique, alors on va lire la parole de Dieu. Et puis, dans Matthieu, chapitre 13, on va lire du verset 1 au verset 9, puis du verset 18 au verset 23. Alors, le verset 1 dans Matthieu 13 nous dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va maintenant au verset 18. Le verset 18 nous dit, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin, ou ce soir plutôt. Dimanche, on a essentiellement abordé ce que cette parabole du semeur et ce que le terrain le long du chemin, ou la semence qui tombe le long du chemin, pouvait représenter pour nous en tant que croyants. On se rappelle les termes grecs qu'on a utilisés dimanche. Le premier terme qu'on a utilisé, c'était « paraodos », qui voulait dire « près du chemin ». Et on expliquait que le semeur n'est pas allé mal faire son travail. Il n'était pas peu intéressé ou peu soucieux de son travail. Non, il a semé sur son terrain, mais ce terrain venait à proximité d'un chemin. Et par conséquent, une partie de la semence qui allait sur la bonne terre est aussi tombée sur le chemin. Et le chemin, pour nous, c'est cet endroit où on se déplace d'un point à un autre. Et comme tout bon coureur, voire tout bon marcheur, et parfois comme toute bonne voiture, s'arrêter à mi-chemin, ça peut être compliqué. Et le danger, le malheur du chemin pour nous en tant que croyants, c'est de ne pas prendre le temps de nous arrêter là où le Seigneur veut qu'on s'arrête. Très régulièrement, on est tellement impliqué dans un tas de choses, on est tellement occupé avec un tas de choses, que c'est simplement lorsqu'une pause survient dans notre horaire chargé que là on s'arrête pour réfléchir à savoir « mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ?» Et je vous parlais de ce bracelet que les jeunes avaient l'habitude de porter il y a quelques années en arrière, qui avait un anagramme WWJD. Un anagramme en anglais qui voulait dire « What would Jesus do ?»« Que ferait Jésus ?» ou « Que ferait Jésus à ma place ?» Et parfois, s'arrêter pour se demander ce que ferait Jésus à notre place, la réponse qu'on attend, la réponse qu'on cherche, se trouve dans la parole de Dieu. Mais cette parole n'est pas accessible si je ne m'arrête pas pour la laisser m'enseigner, pour la laisser me rassasier, pour la laisser, comme on le mentionne dans cette parabole, m'ensemencer adéquatement. Parfois, même si on aime le Seigneur, on est tellement occupé avec un tas de choses qu'on néglige la parole de Dieu. Et c'est simplement quand les choses commencent à tourner un peu moins bien, quand les choses frôlent la catastrophe, qu'à ce moment-là, on s'arrête pour demander « Mais Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté ?» Et on s'exhortait, avant de ne prendre un prochain pas, de s'arrêter pour demander « Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais ? Qu'est-ce que ta parole me dit de faire dans ce type de situation, dans cette circonstance que je peux rencontrer ?» Qu'est-ce que ta parole a à me dire? Et assurément, en toute circonstance, en toute situation, en toute époque, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre appartenance à quelque groupe que ce soit, la parole de Dieu reste et demeure encore aujourd'hui la vérité absolue pour l'homme, pour l'être humain. Pourquoi? Parce que cette parole émane même de la bouche de notre Créateur. Celui qui sait comment on doit fonctionner, celui qui sait aussi quels étaient les plans qu'il avait formulés à notre égard de toute éternité avant même qu'on ne voie le jour. Alors pour remplir ces plans, pour m'assurer d'exécuter sa pleine volonté et d'exécuter le plan pour lequel j'ai été créé. Encore faut-il que je m'arrête pour demander à mon Créateur, à mon Seigneur, puisqu'on est croyant, à notre Sauveur, quelle était sa volonté, quelle est sa volonté et quelles sont ses directives pour nous. Alors, si tu es sur le chemin, je t'invite, mon frère, prends du temps pour t'arrêter et chercher la face de Dieu. Prends du temps pour t'arrêter et te nourrir de la parole de Dieu. Prends du temps pour t'arrêter et interroger le Seigneur. Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? On nous dit que faute de s'arrêter, faute de chercher la face de Dieu, ce qui se passe, c'est que les oiseaux viennent enlever la semence. Et ils vont le faire de deux moyens. Et la Bible nous dit, dans d'autres passages, notamment dans Marc au chapitre 4, le verset 15, on explique que les oiseaux, c'est en fait le diable qui vient enlever la parole qui a été semée de peur qu'on croit et qu'on soit sauvé. Et ça va être une thématique importante dans quelques instants sur laquelle on va revenir. Mais le diable vient enlever la semence, mais de deux manières. Premièrement, il vient effectivement la retirer de nos pensées. Il va essayer de juxtaposer, de passer dans nos pensées quelque chose qui, à nos yeux, va devenir plus important que la parole de Dieu. Il va essayer de mettre de côté ou de faire en sorte que nous mettions de côté la parole de Dieu pour porter notre attention sur un tas de choses. Et vous savez qu'il le fait régulièrement et il y réussit régulièrement. Mais si la parole de Dieu est effectivement importante dans ma vie, si la parole de Dieu est ce socle sur lequel est bâtie mon existence, si j'accorde à la parole de Dieu l'importance qui se doit, à ce moment-là, le diable ne pourra pas venir me proposer quelque chose d'autre. Ne pourra pas venir me proposer quelque chose qu'il décrira comme plus important, comme plus attrayant, comme plus intéressant, comme plus approprié. Si je décide et si je reste dans cette décision, comme quoi la parole de Dieu est ma source de sagesse, ma source de connaissance, ma source d'information la plus importante, la plus capitale qui soit, dans mon existence, alors le diable pourrait me proposer quoi que ce soit et je retournerai malgré tout à ce que j'ai déclaré comme le plus précieux dans ma vie, la parole de Dieu. Mais quand le diable ne peut pas enlever la parole de nos pensées, ce qu'il fait, c'est qu'il la contamine. J'expliquais qu'une des raisons pourquoi on va protéger la semence des oiseaux, c'est que les oiseaux peuvent être vecteurs de contagion, vecteurs de bactéries, vecteurs de tout un tas de choses qui viendraient corrompre la semence. Voilà pourquoi on a des greniers, voilà pourquoi on a des granges, voilà pourquoi on a des lieux hermétiques dans lesquels on range aujourd'hui la semence de peur qu'elle ne soit contaminée. Et le diable, dans l'image des oiseaux, lorsqu'il ne vient pas strictement pour enlever cette parole, il vient aussi la rendre caduque en la corrompant par un tas de choses. Nous devons revenir à la parole de Dieu comme étant sagesse inouïe, sagesse absolue pour nous. Et ne pas permettre au diable de venir la corrompre en disant « ben celle-ci est trop vieille ». Tu devrais l'ajuster à ton époque. Ce qu'il prônait à l'époque, c'était bon pour les gens de l'époque, mais aujourd'hui, on est dans une société moderne et il faudrait que cette parole s'adapte à cette société moderne. Ce qu'elle proclame ne changera jamais. La parole de Dieu, comme on l'a vu ce matin lors de notre bénédiction matinale, est immuable. Ne peut pas changer, ne peut pas être transformée. Elle reste la même d'éternité en éternité pour une raison de justice. La parole de Dieu proclame ce qui est bien de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et s'il y avait un changement dans ces valeurs de bien et de mal, à ce moment-là, certaines générations seraient peinés ou pénalisés par rapport à d'autres, et d'autres générations seraient favorisées par rapport à leurs ancêtres ou à leurs successeurs. Mais parce que Dieu est un juste Dieu, parce que Dieu est juste envers chacun d'entre nous, cette parole reste la même d'éternité en éternité. La Bible nous dit que chez Dieu, il n'y a pas même l'ombre d'un changement. Et quand on parle de l'ombre d'un changement, c'est pour dire que même l'ombre que lui dégage ne change pas. Dieu ne change pas, mais ce qu'il dégage non plus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait changé, s'il s'était endurci dans ses jugements, tu pourrais te tourner vers Dieu aujourd'hui en lui disant qu'il est injuste. Mais parce que le jugement de valeur de Dieu est resté le même de toute éternité et restera le même pour toute l'éternité, à ce moment-là, les jugements qu'il rend sont justes envers tout homme, toute femme, de toute génération, de toute contrée, de toute ethnie, de tout arrière-plan, de tout vécu, de toute langue, de toute couleur. Alors ne laissons pas le diable ni venir voler la parole qui a été semée en nous, ni la corrompre par les pensées de notre époque, par les pensées de notre génération. Et peut-être le plus grand drame de cette parabole du semeur, quant à la portion qui traite du chemin, se trouve dans Luc au chapitre 8. Luc 8, le verset 5, va nous dire « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Elle fut foulée aux pieds. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est possible de ne pas accorder à cette semence tout le côté précieux qui lui est dû. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans ta vie et dans ma vie, si je ne fais pas attention, je pourrais me mettre à fouler la parole de Dieu, à la piétiner, en ne lui accordant pas, en ne lui accordant pas tout le respect, toute la révérence qui se doit. En fait, quand on parle de fouler une chose au pied, on parle d'avoir du mépris par rapport à une chose. Et ce n'est pas nécessairement être en conflit direct avec la chose, mais parfois c'est tout simplement ne pas lui accorder le prix qui est adéquat. Lui donner un prix plus bas, lui donner une valeur qui est plus basse. Est-ce que la parole de Dieu est effectivement la chose la plus précieuse de ta vie? Est-ce qu'elle est la chose la plus précieuse de ta vie? Peu importe le contexte, l'époque, le moment, peu importe ce que tu vis, peu importe de qui tu es entouré, est-ce que la parole de Dieu reste et demeure la chose la plus précieuse dans ta vie? Pour toi qui es chrétien, qui nous regarde ce soir, je te rappellerai simplement qui est la parole de Dieu. Jean 1:1 nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on nous dit un peu plus tard que la parole, cette parole, a été faite chair. Et lorsque cette parole a été faite chair, elle a été faite chair à travers Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors comme je le dis depuis le début du mois, lorsqu'on méprise la parole de Dieu, on en vient à mépriser notre Seigneur et notre Sauveur. Et assurément, aucun d'entre nous qui croyons en Jésus, à qui on a donné notre vie, aucun d'entre nous, délibérément, on ne voudrait mépriser Jésus. Mais lorsque je méprise sa parole, qui est non seulement intimement liée à lui, mais qui foncièrement est Jésus, alors lorsque je méprise sa parole, malheureusement, je méprise aussi mon Seigneur. Et il peut arriver, oui, qu'un chrétien, malgré tout, piétine la parole de Dieu, ne lui accordant pas toute la valeur qui se doit. Ce soir, j'aimerais, dans les prochaines minutes, reprendre ce même texte, ces mêmes trois éléments qu'on a vus, mais non plus pour nous en tant que croyants, mais pour nous en tant que témoins de Jésus, pour nous en tant que ceux qui partagent cette parole, voire pour nous qui agissons aussi en tant que semeurs. La première leçon qu'on a vue dans cette parabole, c'était que si nous avons effectivement la parole de Dieu entre les mains, qui est de la semence, alors par conséquent, parce qu'il a mis de la semence entre nos mains, nous sommes devenus des semeurs. Et dans notre travail de semeur, dans cette semence qu'on répand autour de nous, à l'occasion, effectivement, il y a de la semence qui tombe le long du chemin. Il y a de la semence que les oiseaux viennent manger et il y a de la semence qui est foulée aux pieds. Et on ne parle plus de nous en tant que croyants, mais on parle de la réaction des gens face à la semence qu'on répand autour de nous. Eux aussi sont occupés. Eux aussi sont dans une course effrénée vers un avenir meilleur, vers un futur plus profitable, vers des gains. Ils sont dans une course avec eux-mêmes et avec leurs concitoyens, avec leurs contemporains, en essayant d'avoir leur part de montagne, leur part du gâteau, leur part du trésor pour eux et pour ceux qui vont leur succéder. Et ce faisant, ils ne s'arrêtent pas toujours pour nous écouter. Mais la Bible nous dit ici que ceux qui sont sur le chemin, que cette terre que représente le chemin, ce sont ceux qui entendent et qui ne comprennent pas. Et assurément, le diable peut effectivement travailler dans les pensées pour que les gens ne comprennent pas. Mais soyons honnêtes, pour être compris, il faut encore parler la langue des gens à qui on s'adresse. Si je vais aux États-Unis pour me faire comprendre, si je leur parle en français, je risque d'avoir de la difficulté. Oui, je sais, dans certains coins aux États-Unis, il y a encore quelques personnes qui parlent français, mais c'est assez rare. Pour me faire comprendre d'un Américain, il faudrait que je parle anglais. Ou il faudrait que je leur parle en anglais. Les quelques occasions où j'ai été en Espagne, même si c'est à côté de la France, je ne me suis pas aventuré à leur parler en français. J'ai pris la langue des Espagnols et j'ai essayé de leur parler en espagnol et jusqu'à preuve du contraire, ça a quand même fonctionné. Je vous raconterai peut-être un jour une occasion où ça n'a pas du tout fonctionné, mais en règle générale, lorsque je m'exprimais en espagnol, ils étaient capables de me répondre. Paul va dire « Je me suis fait grec avec les grecs, juif avec les juifs. Je me suis fait comme n'ayant pas de loi avec ceux qui n'avaient pas de loi. Je me suis fait comme ayant la loi avec ceux qui étaient sous la loi. Je me suis fait tout à tous dans le but d'en gagner au moins quelques-uns. » Qu'est-ce que Paul avait compris? Paul avait saisi, Paul réalisait que pour que les gens comprennent la parole, fallait-il encore parler leur langue. On se rappelle ce moment où Paul arrive, je crois que c'est à Athènes, et qu'il se promène et il voit une stèle, il voit une plaque envers le Dieu inconnu. Et Paul va se servir de cette croyance des Grecs pour leur parler du Seigneur, en leur disant, ce Dieu que vous ne savez pas nommer, ce Dieu que vous ne savez pas décrire, ce Dieu s'est fait chair à la personne de Jésus et est mort pour le péché de tout un chacun. Paul s'est fait grec avec les Grecs. Et assurément, en tant que croyant, Et en tant que chrétiens, très souvent, nous parlons une langue que les gens ne peuvent pas comprendre. Je me rappelle certains chants qu'on avait plus l'habitude de fredonner ou d'entonner lorsqu'on est arrivé à l'église. Il y en avait un particulier qui disait « Lave-toi dans le sang, lave-toi dans le sang de Jésus ». Et je comprends spirituellement et bibliquement ce que ça veut dire. Mais imaginez quelqu'un qui rentre pour la toute première fois dans l'église et le premier cantique qu'il entend, c'est qu'il faut prendre un bain dans de l'hémoglobine. Assurément, si cette personne est bien pensante, elle ne restera pas longtemps dans la salle. Mais combien de fois on a parlé chrétien à des non-chrétiens? En anglais, ils ont cette expression de parler Christianese, de parler la langue chrétienne. Combien de fois on est allé témoigner, s'adresser à des gens en leur parlant de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Combien de fois on a voulu raisonner avec eux, avec quelque chose qui, intellectuellement et spirituellement, ils ne pouvaient de toute manière pas saisir? Paul s'est mis au niveau de son auditoire pour que son auditoire puisse au moins comprendre et saisir un peu cette parole. Pourquoi le faisait-il? Pour en gagner au moins quelques-uns. Alors très souvent, pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est tout simplement qu'on ne s'est pas mis à leur niveau pour leur parler de ce qu'ils peuvent comprendre, pour utiliser en utilisant des mots qu'ils peuvent saisir. Vous voyez, il y a même des mots qu'on utilise dans l'Église et qui foncièrement, si on demandait à une grande majorité de croyants ce que ça veut dire, ils auraient de la misère à expliquer ce que ça veut dire. La rédemption. La rédemption était peut-être un terme qu'on utilisait jadis, mais c'est rare que je vais à l'épicerie et que je parle de rédemption. Mais peut-être que mon voisin a besoin d'entendre qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Et ça, il va le comprendre. Mais ce n'est pas certain que le mot rédemption, il va le comprendre. Alors, lorsqu'on parle aux gens autour de nous, s'ils ne comprennent pas, il y a une part de responsabilité qui nous revient. Pour ceux qui sont le long du chemin, qui sont occupés avec un tas de choses, qui vivent dans une autre sphère que nous, c'est à nous de faire le pas d'aller vers eux en leur présentant l'Évangile comme ils peuvent le comprendre, en étant juifs avec les juifs, grecs avec les grecs, sans loi avec ceux qui n'ont pas de loi, comme ayant la loi avec ceux qui ont la loi. Pourquoi? Parce qu'on veut au moins en gagner quelques-uns. Alors que nous puissions apprendre à parler pour être entendus et être compris. C'est notre premier point ce soir. Parler pour être entendus et compris. Le deuxième point, c'était cette image des oiseaux qui viennent manger la semence, qui viennent la dévorer, qui viennent la détruire. Et effectivement, régulièrement, on sème dans la vie de nos voisins, on sème dans la vie de quelqu'un qu'on croise sur notre chemin, on lui parle de Jésus. Mais on ne se rappelle pas que dès que cette semence va être plantée, la Bible nous dit que les oiseaux vont venir, que le malin va venir, que le diable va venir. Et qu'il va enlever cette parole, qu'il va enlever cette semence que tu as plantée dans le cœur de quelqu'un. Alors, il est important pour toi et pour moi, lorsqu'on a semé, qu'on ne s'arrête pas à semer, mais qu'on prie aussi, qu'on prie pour arrêter le vol de notre semence, qu'on prie pour arrêter d'être volé par le diable. Que lorsqu'on a ensemencé la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, qu'on puisse rapidement entrer en nous-mêmes et prier pour interdire au diable, pour interdire aux agents du diable de venir voler la parole que nous avons ensemencée. Mais vous savez qu'il y a un autre truc aussi pour pallier au vol du diable, c'est de ne pas s'arrêter d'ensemencer. Et de dire, regarde, tout aussi longtemps que tu vas vouloir venir voler, je vais continuer à semer. Je sème, tu viens prendre, je resème encore derrière toi. Tu viens prendre une deuxième fois et je sèmerai encore le troisième jour. Et nous assurer que nous semons toujours une fois de plus que le diable n'est capable de voler. Non seulement prier pour arrêter l'œuvre du diable, mais de surcroît à cela, semer plus souvent que lui ne vient voler. Si on veut que cette semence puisse entrer dans les cœurs, qu'elle puisse rester, qu'elle puisse marquer la pensée des gens, n'arrêtons pas de semer, n'arrêtons pas de planter, et assurément, plantons plus souvent que le diable ne vole. Donc notre deuxième point ce soir, prier pour ne plus être volé. Prier pour ne pas laisser au diable le droit de nous voler et de surcroît à cela, semer plus souvent que le diable ne vole. M'assurer que dans la vie de mon voisin, dans la vie de mon ami, dans la vie de mon parent qui n'a pas encore rencontré Jésus, que je sois toujours un coup d'avance sur le diable. Et que même s'il a prévu venir voler ce soir, moi j'ai déjà prévu que demain, je suis encore à mon poste pour semer la parole de Dieu. Troisième point et dernier point, ce soir, on nous dit que la parole est foulée aux pieds, qu'elle est méprisée et qu'on fait face à elle preuve d'irrévérence. Mais vous savez, on méprise souvent quelque chose qu'on ne connaît pas, ou quelque chose qu'on n'a pas apprécié, ou quelque chose qu'on n'a pas appris à apprécier. Lorsque quelqu'un vient me voir et qu'il est emballé par une chose, en règle générale, je lui prête ne serait-ce que quelques instants un peu d'attention. Lorsque quelqu'un vient me voir avec un sujet qui semble brûler dans son cœur, par exemple, quand un fan du Canadien vient me voir et me raconte comment il est heureux des dernières signatures de contrat pour son équipe, même si je ne suis pas un fan, tout simplement par la joie qui exulte de cette personne, je vais l'écouter. Parlons pour être écoutés. Parlons pour être remarqués. Ne soyons pas gênés du témoignage que nous avons à rendre. Est-ce qu'on comprend que la personne de qui on va parler, le message que nous allons apporter, est un message qui peut donner la vie en est pour l'éternité, la vie éternelle pour celui qui la reçoit. Est-ce qu'on comprend que ce message, il n'y a pas plus précieux, il n'y a pas plus glorieux, il n'y a pas plus merveilleux message que celui de Christ, mort et ressuscité pour le salut du pécheur. Lorsque ce message m'emballe, je vais parler avec une joie exultante. Ce qui va créer, ce qui va initier probablement une certaine curiosité à ton égard. Et si je parle régulièrement et sans me lasser, peut-être que les gens autour de moi vont se dire, mais il m'en parle tellement souvent que je devrais peut-être y jeter un œil. On a tous entendu le témoignage de quelqu'un qui, à un moment donné, dit, je me suis rappelé de ce que ma mère m'avait dit lorsque j'étais petit. Lorsqu'elle me parlait de Jésus et je me suis retrouvé dans une situation difficile et cette parole est revenue en ma tête. Je me rappelais les intonations de ma mère, je me rappelais ce qu'elle me disait. Et je me suis tourné vers Dieu en disant, Seigneur, si tu existes réellement. Mais ça a été parce qu'il y a une maman qui ne s'est pas lassée de parler. Parce qu'il y a une maman qui croyait assez important ce message qu'elle ne pouvait pas se taire. tu ne sais pas quand cette parole va te retourner. On regardait le passage il y a quelques jours dans Ecclésiaste où on va dire au prophète de lancer son pain à la surface des eaux, en ne sachant pas combien va lui retourner. Mais qu'avec le temps, oui, il y en a qui vont retourner. Parlons suffisamment, parlons avec abondance pour que ce qui nous retourne soit aussi marqué ou soit aussi marqué par la vie éternelle. Revenons à l'histoire de Paul, revenons à l'exemple de Paul qui va se faire tout à tous. Donc, peu importe qui se retrouve devant lui, il adapte le message et il parle du message et il ne se tait pas. Il réinsiste encore et encore et encore et encore afin d'en gagner au moins quelques-uns. Paul disait, je ne sais pas combien je vais en gagner, mais je fais tout pour au moins en gagner quelques-uns. La question pour toi et pour moi, est-ce que nous faisons vraiment tout pour en gagner au moins quelques-uns? Est-ce qu'on sème assez pour au moins avoir une petite récolte? Est-ce que je sème suffisamment pour qu'à la fin de la saison, il y ait quand même un retour sur mon investissement? Paul disait, regardez, je ne sais pas combien je vais ramener avec moi. Je ne sais pas combien vont répondre. Mais je fais tout, tout ce qui est en mon possible pour qu'il y ait, en dépit de toutes circonstances, de toute situation, en dépit de ces gens qui passent sans s'arrêter sur le chemin. Ne serait-ce qu'un seul qui entend et qui répond. Ne serait-ce qu'un seul qui entend et qui se repent. Ça aura été suffisant. Mon frère, ma sœur, nous avons de la semence. Nous avons une semence qui ne tarit jamais. Nous avons la semence de la plus haute qualité qui soit. Nous avons la semence qui peut apporter la vie éternelle dans la vie de celui qui la reçoit. Mon frère, ne sème pas avec parcimonie. Ma sœur, ne sème pas en mesurant ce que tu sèmes. Répands. Répands à un tel point que la semence va un peu partout. Non seulement dans le bon terrain, mais tu ne sais pas qui sera le bon terrain. C'est simplement au fruit que tu vas le voir. Mais sème. 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 Ne laisse pas le chemin gagner sur la bonne terre, mais fais en sorte que ta semence gagne sur le chemin. Fais-toi tout à tous pour au moins en gagner quelques-uns. Alors, on va prier maintenant. On a environ une dizaine de minutes. Prions pour ces trois thématiques que nous avons vues ce soir. Parler pour être entendu et compris. Prier pour ne pas être volé et semer toujours plus que ce que le diable ne peut voler. Parler pour être remarqué, parler pour être entendu, parler et ne jamais se lasser. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour cette exhortation pratico-pratique que tu nous donnes quant à ce qui se passe lorsque nous évangélisons. Seigneur, combien de fois on a parlé, mais on a parlé avec un langage d'église, on a parlé avec un langage de quelqu'un qui te connaît depuis des lustres. Combien de fois on a parlé sans que les gens ne soient à même capable de nous entendre ou de nous comprendre. On s'est cru très spirituel parce qu'on avait des mots à rallonge, parce qu'on avait des mots compliqués, Mais ce faisant, Seigneur, on a probablement égaré des gens. Je prie, Seigneur, que notre langage puisse se faire tout à tous, afin d'en gagner au moins quelques-uns. Paul s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Et Paul nous exhortait à être ses imitateurs comme lui-même était imitateur de Christ. Seigneur, nous prions effectivement de nous faire tout à tous, afin d'en gagner au moins quelques-uns. Seigneur, que lorsque nous parlons à nos voisins, ce ne soit pas quelque chose qui repose sur notre sagesse, sur notre compréhension, sur nos techniques purement humaines, mais que ce soit des mots qui émanent de ton trône de grâce, qui émanent de toi directement, qui émanent de ton cœur. Pour ceux qu'on croise, pour ceux à qui on parle, je prie, Seigneur, que la prochaine personne à qui nous allons parler, que la prochaine personne que nous croiserons, qu'on puisse lui parler avec ces mots qui parlent directement à son cœur, directement à son âme. Je sais, Seigneur, que pour plusieurs d'entre nous, ça veut dire laisser notre zone de confort, laisser nos habitudes, laisser peut-être des choses qui sont devenues des pratiques courantes dans nos vies. Mais Seigneur, on ne veut pas parler comme des gens qui frappent dans le vide, qui parlent dans le vide. On veut parler en se faisant tout, mais complètement tout, à tous, pour en gagner au moins quelques-uns. Seigneur, on prie pour des âmes. On prie pour une moisson d'âmes, on prie pour des conversions, on prie pour que des hommes, des femmes viennent à te connaître, à se repentir et à expérimenter le salut. Mais combien de fois, Seigneur, on leur a parlé, ils n'ont rien compris. Parce qu'on n'a pas dit les mots qu'on devait dire. Parce qu'on n'a pas abordé les sujets qu'il se fallait d'aborder. Permets-nous, Seigneur, d'être tout avec tous. Que cela vienne, Seigneur, saisir nos pensées, que la prochaine personne à qui nous parlons, que nous puissions avoir clairement dans nos pensées de lui parler pour qu'elle comprenne. Seigneur, nous voulons aussi prendre position par rapport à la semence que nous avons répandue. Ta parole nous dit que dès que cette semence est tombée sur le chemin, les oiseaux qui représentent le malin, qui représentent le diable, viennent dévorer cette semence, de peur que quelqu'un ne croie et qu'il ne soit sauvé. Seigneur, que nous ayons cette habitude, que nous prenions cette habitude, dès que nous témoignons, que nous soyons déjà en prière dans notre être intérieur, en interdisant au diable de venir voler quelque parole qui est semée. Que nous puissions, Seigneur, prendre contrôle du territoire dans lequel, Seigneur, tu nous amènes, pour que le diable ne puisse pas venir après notre passage voler la semence que nous avons implantée. Mais de surcroît à cela, nous voulons prendre l'engagement devant toi, Seigneur, de semer davantage que ce que le diable n'est capable de voler, de toujours être un coup en avance sur lui. Seigneur, nous voulons prendre l'engagement que même si le diable venait voler ce soir la parole que nous sèmerons, que demain nous serons encore à notre poste pour semer de nouveau. Et tant que le diable voudra voler, nous serons là à notre poste pour semer et semer encore. Nous ne voulons plus nous lasser. Nous ne voulons plus lui laisser la place. Nous ne voulons plus lui laisser la libre action dans notre travail. Seigneur, nous voulons bloquer ses initiatives et nous voulons semer davantage que lui et tous ses acolytes, tous ses agents, tous ses anges et toute son armée n'est capable de voler. Nous sèmerons davantage que ce que le diable ne peut se voler. Seigneur, enfin, nous ne voulons pas nous lasser de parler. Nous voulons parler avec toute la joie qui est supposée émaner de notre cœur. Seigneur, c'est la bonne nouvelle que nous partageons, cette bonne nouvelle de Christ qui est mort pour mon péché et qui est ressuscité pour mon salut. Il n'y a pas de plus grand et de plus merveilleux témoignage. Il n'y a pas une plus belle histoire à raconter. Il n'y a pas un plus beau message à partager. Et je prie, Seigneur, que la lassitude qui nous gagne si souvent soit secouée loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, qu'un zèle nouveau, le zèle que donne ton évangile, ta parole nous dit, le zèle que donne ton évangile, nous voulons que ce zèle s'empare de nous. Ce zèle qui fait que personne ne peut nous taire. Que peu importe les tentatives de qui que ce soit, nous serons à notre poste et nous parlerons. Nous serons des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là où tu voudras, Seigneur, nous irons et nous parlerons pour toi. Seigneur, tu nous as donné l'occasion de partager le plus grand et le plus merveilleux des messages. Nous ne serons plus muets. Nous ne serons plus égoïstes. Nous ne serons plus économes sur la semence. Nous savons que cette semence ne peut pas venir à tarir, que cette semence ne peut pas venir à manquer. Alors nous sèmerons. Aujourd'hui, nous sèmerons encore demain. Si tu nous prêtes vie, nous sèmerons encore le jour suivant. Nous sèmerons en abondance. Nous sèmerons, Seigneur, avec zèle. Nous sèmerons avec conviction. Nous sèmerons avec joie. Nous sèmerons avec passion. Nous sèmerons en nous faisant tout à tous, afin d'en gagner au moins quelques-uns. Seigneur, que cet appel à être des semeurs s'empare de ma sœur. Que cette vision, Seigneur, du travail du semeur s'empare de mon frère. Je prie, Seigneur, qu'on ne puisse plus se réfugier sous le couvert de l'ignorance, sous le couvert de « je ne savais pas, je n'avais pas compris ». Seigneur, tu as mis une semence entre nos mains pour que nous semions. Nous sèmerons davantage que ce que le diable n'est capable de voler. Nous sèmerons avec joie, avec passion. Nous sèmerons avec le zèle que donne ton évangile. Afin, Seigneur, qu'au décompte final, nous puissions en avoir au moins gagné quelques-uns. Seigneur, nous sommes à Montréal. Nous voulons semer à Montréal. Mais aussi, Seigneur, dans tout endroit où tu nous conduiras. Mais demain matin, ma sœur se trouvera dans un quartier. Mon frère se trouvera dans une intersection d'une rue. Mon autre sœur se trouvera dans un autre arrondissement de la ville. Et à chacun de ces endroits, Seigneur, je prie que nous fassions face à nos responsabilités et que là où tu nous mènes, nous semions et que nous semions en abondance. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient là ce soir. Merci pour ta parole qui est encore source de vie, source de transformation pour nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui écouteront en différé cette même parole. Pour cette parole spécifique, nous nous levons contre tout agent du diable qui voudrait venir voler, contaminer quoi que ce soit qui a été dit ce soir. nous lui interdisons toute action et nous te demandons, Seigneur, assiste-nous, équipe-nous, utilise-nous pour ta gloire et simplement pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux, merveilleux, glorieux, admirable nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et là où vous êtes à la maison, vous poussez un gros Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. On vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire pour assister à l'Assemblée en présentiel ce dimanche. Sinon, on se retrouve dès demain matin, 8h30, sur Facebook pour notre prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bon repos. Soyez en forme demain. Vous avez du boulot à faire. Vous devez semer et semer en abondance. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.